Ouvrez donc vos Bibles ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Hein, cela fait plusieurs mois, et je sais, je répète ça à chaque fois que je prêche, que nous sommes en train d'étudier la doctrine de l'ecclésiologie, l'enseignement biblique concernant l'Église et l'importance de cela. Hein, ce n'est pas quelque chose à négliger, ça a toute son importance, parce que à partir du moment où il y a un enseignement dans la parole de Dieu sur un sujet précis, ça mérite toute notre attention, n'est-ce pas? Mais 1 Corinthiens chapitre 12, et nous allons parler eh bien des membres de l'Église, des membres de l'Église ce matin. 1 Corinthiens chapitre 12, et nous commencerons à lire à partir du verset 12, si vous voulez bien. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent-ils le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun, chacun pour sa part. Ah oui, ce matin, nous allons parler de la question d'être membre d'une église locale. Et la raison pour cela, c'est tout d'abord parce que c'est ce que nous voyons dans les Écritures et nous allons élaborer cela, mais aussi parce que nous vivons à une époque où l'engagement est quelque chose de rare, n'est-ce pas? De plus en plus, nous entendons parler de gens qui ne veulent pas s'engager dans la durée. Je crois que j'avais déjà évoqué ça lors d'une autre prédication sur le fait que même après le Covid, il y a eu un effet où les gens ne voulaient plus s'engager à long terme dans des projets, dans un emploi, où il y a même une préférence de nos jours pour les CDD, hein, les contrats à durée déterminée, plutôt que des contrats à durée indéterminée. Parce que nous avons une société qui ne veut plus s'engager. Et on voit cela à différents niveaux de la société. Cela fait des décennies et des décennies maintenant que même au niveau de la relation de couple, l'engagement est quelque chose qui est rare, où nous avons une société qui privilégie plutôt le concubinage plutôt que l'engagement d'une personne envers l'autre, un engagement solennel, sérieux. Mais à cause de cela, malheureusement, nous voyons aussi un effet parmi les églises, et je ne dis pas cela par rapport à la nôtre, je dis cela par rapport à ce que nous pouvons constater, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où l'engagement dans l'église est quelque chose de plus en plus rare. Cela fait des dizaines d'années maintenant aussi que ce que nous constatons, malheureusement, c'est que dans de nombreuses églises, ce sont les femmes qui s'engagent le plus. Hein, les hommes qui se mettent en retrait, qui ne veulent plus prendre de responsabilité dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, et il y a un déséquilibre qui se fait. Mais il n'est pas surprenant non plus, à cause de ce que nous voyons dans la société, de l'influence que cela peut avoir parmi certains chrétiens, que le fait, ben, de joindre une Église, soit quelque chose qui ne soit pas une priorité. Malheureusement, il n'est pas rare qu'il y ait aussi des chrétiens qui vont se déplacer d'église en église. Hein, surtout dans les grandes métropoles en France, où il y a plus, on va dire, de choix en termes d'église, en termes d'assemblée, il n'est pas rare de voir des personnes aller d'une église à l'autre sans jamais, on va dire, s'associer et s'enraciner, si on peut dire cela, dans une église ou dans une autre. Une des personnes avec laquelle nous témoignons et nous essayons d'amener au Seigneur, c'est une personne qui a du mal justement à s'engager et qui va aller d'une église à l'autre et qui n'arrive pas à prendre de décision là-dessus, ou peut-être elle ne veut pas tout simplement prendre un engagement. Donc malheureusement, c'est une réalité. Et le fait de négliger ou de refuser de rejoindre une église en tant que membre reflète cependant une mauvaise compréhension des Écritures, une mauvaise compréhension de ce qu'est l'église et des responsabilités que les chrétiens, que les croyants ont envers le corps de Christ. L'église locale, elle joue un rôle important. Elle joue un rôle important dans la vie spirituelle du croyant. Et une chose que j'aimerais déjà souligner dès à présent, sans même encore entrer dans le thème plus spécifiquement, le simple fait que Dieu nous ait donné l'Église, que c'est un don et une grâce de Dieu que d'avoir créé l'Église et de nous avoir appelés dans cette Église, nous indique déjà que c'est quelque chose que chaque chrétien ne devrait pas négliger. Dans la plupart des cas, l'église locale est la principale source d'enseignement biblique, le seul endroit où les gens vont pouvoir venir ensemble pour s'adorer, de pouvoir servir dans l'église. Mais c'est aussi le seul endroit où il y a cet affûtage spirituel. Hein, comme le fer qui aiguise le fer. Quand on se met en retrait par rapport à une église et qu'on néglige l'église, eh bien, on n'a pas cette possibilité nous-mêmes déjà de pouvoir aider une personne à progresser dans sa vie spirituelle, mais nous-mêmes, nous nous posons dans une situation où, eh bien, nous ne pouvons pas bénéficier de cela. Une des choses qui est enseignée dans les Écritures par rapport à l'Église, c'est qu'il y a aussi de la discipline dans l'Église. Et la discipline, elle est là pour aider à relever le chrétien qui est tombé. Elle est là pour aider aussi à nous débarrasser des choses qui nous encombrent et qui nous empêchent de nous rapprocher du Seigneur. Et ce sont des choses qui sont nécessaires et que Dieu a données également. Mais l'Église aussi, c'est le lieu d'encouragement, de communion fraternelle. Et compte tenu justement de ce rôle vital que joue l'Église dans la croissance spirituelle du chrétien, malheureusement, c'est triste qu'il y ait tant de chrétiens qui ne ressentent pas ce besoin de s'identifier à une Église. Ce que notre sœur Suzanne a partagé il y a quelques instants par rapport à des personnes qui sont dégoûtées de l'Église, dégoûtées des chrétiens, etc. C'est une réalité malheureusement parce qu'il y a des églises où ils ne sont pas en train de suivre l'enseignement biblique, où ils sont en train de suivre des personnes plutôt que le Seigneur. Et il y a de quoi être dégoûté. Mais aussi, si nous ne faisons que regarder aux autres et à leurs imperfections et à leurs manquements, à leurs péchés, ben nous n'avons rien compris à ce qu'est l'église. L'Église appartient à Christ, n'est-ce pas? C'est l'Église de Jésus-Christ, et non pas celle des chrétiens. Plutôt que donc de s'attacher à une assemblée, hein, beaucoup, comme j'ai dit, hein, se contentent de butiner, de flâner d'une église à une autre, certains vont choisir aussi une assemblée, on va dire, en rapport avec leurs besoins, c'est-à-dire, ou une ambiance, ou une recherche émotionnelle, plus que de rechercher la vérité. Voilà bien une approche, on va dire, humanocentrique plutôt que théocentrique. C'est-à-dire que on fait les choses par rapport à nous-mêmes au lieu de les faire par rapport au Seigneur. Et donc cette approche un peu moderne des choses, où on voit cette sorte de consumérisme spirituel, c'est-à-dire que voilà, on consomme, on prend, on reçoit. Ah ben là, je reçois plus, alors je vais aller là-bas, et là je reçois. Ou tiens, maintenant, il y a plein de choses sur Internet, et alors là, je vais prendre partout, je reçois, je prends, je prends, je prends. Ce genre de vie chrétienne-là n'est pas celle que nous voyons dans les Écritures. Et donc, nous devons veiller, chacun d'entre nous, à prendre cela avec le plus grand sérieux, comprendre ce qu'est l'Église, le plan de Dieu pour l'Église, le plan de Dieu pour chaque croyant au sein de l'Église. Et nous avons déjà examiné au cours de cette série de messages sur l'Église beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Mais le but ce matin, et ça va être probablement encore sur un autre dimanche, je le sais, vu les notes que j'ai dû pondre, mais notre but, ça va être d'examiner les Écritures, d'essayer de comprendre pourquoi c'est si important, pourquoi c'est important pour le chrétien de se joindre à une assemblée, d'en faire partie, de prendre ses responsabilités au sein d'une église locale. Mais tout d'abord, il nous faut définir ce que c'est que l'appartenance à l'Église, n'est-ce pas? Au cours de cette série de messages, nous avons eu l'occasion de voir dans les Écritures qu'il y a cette Église universelle, hein, l'Église de Jésus-Christ, le corps du Christ, qui est constituée de tous les croyants, de tous les temps, de toutes les périodes. Une Église qui est en train de se composer, une Église qui est en train de se former et qui ne sera complétée qu'une fois que l'Église sera enlevée dans la présence du Seigneur, et là, l'Église de Christ sera finalement complétée. C'est ce que nous appelons en théologie donc l'Église universelle. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des églises locales, et nous avons vu que ces églises locales dans le Nouveau Testament étaient des églises qui étaient indépendantes, tout en étant quelque part interdépendantes, c'est-à-dire qu'il y avait des connexions avec les églises, des aides qui se faisaient, etc. Mais que chacune de ces églises avait leur propre identité et même leur propre manière de faire les choses parfois. Mais de nombreuses personnes, malheureusement, considèrent les églises comme une institution inutile. Hein, si vous demandez aux gens qui sont en train de passer devant, qui regardent comme ça un peu curieux, si on leur demandait, est-ce que c'est important d'avoir une église? Non. Sinon, ils seraient ici. Ils entreraient. Mais voilà, beaucoup hein, dans le monde ont cette idée que c'est une institution inutile, voire manipulatrice, peu utile hein, au développement hein, de l'humain, au bien-être personnel. Mais le croyant doit cependant veiller à avoir une perspective biblique de l'Église locale. Déjà, hein, le chrétien sérieux qui a pris le temps de lire les Écritures, il aura déjà remarqué que dans le Nouveau Testament, l'Église tient une place indéniable. Elle est importante. Le livre des Actes, c'est quoi? C'est les chrétiens qui vont partir, témoigner, évangéliser, commencer des églises, former, enseigner, développer ces églises, et ainsi de suite. Et on voit des églises naître à différents endroits. Après, il y a les épîtres de Paul, hein, de Pierre, de Jacques, Jean, etc., qui sont adressés dans leur plus grande majorité à qui? À des églises locales. La place de l'église, elle est indéniable. Et c'est malheureux parfois de voir certains chrétiens, eh bien, négliger l'église, ou même de voir l'église comme quelque chose qui... Ah, il y a trop d'imperfections, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés, et je ne veux pas en faire partie. Il y avait donc dans les Écritures des églises locales, l'église de Jérusalem, hein, d'Antioche de Pisidie, Antioche de Syrie, hein, l'église qui avait envoyé Paul comme missionnaire, Athènes, Bérée, Colosse ou Corinthe. De multiples églises, hein, c'est pas moins d'une trentaine d'églises qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. On ne peut pas négliger cela. Et donc adhérer à une église locale, il faut bien comprendre que C'est déjà avant toute chose un engagement pour le Seigneur. Et c'est bien là où il y a ce problème. C'est que beaucoup d'églises vont prêcher, voilà, c'est un engagement pour l'église. Donc, c'est un engagement pour le Seigneur et ensuite un engagement pour les autres. Être disciple de Christ déjà requiert un certain engagement. Quand une personne a compris l'évangile et s'est tournée vers Jésus-Christ, reconnaissant et confessant ses péchés, demandant la grâce de Dieu, il y a un engagement qui se fait déjà là. Un engagement par la foi. Et le deuxième engagement du croyant, c'est celui du baptême. Le baptême par immersion qui est cette image, ce symbole de l'œuvre de Christ, du Saint-Esprit dans la vie de la personne qui était morte dans ses péchés, mais qui par sa foi en Jésus-Christ a été ressuscitée en nouveauté de vie, une nouvelle création. Il y a un engagement pour Christ. Et si nous sommes engagés pour Christ, eh bien, nous devons considérer encore une fois avec la plus grande attention ce que Christ a à nous dire et nous enseigner au sujet de l'Église et de notre place, de notre rôle, de nos responsabilités, et je vais même ajouter de nos privilèges que nous avons dans l'Église locale. Ce que nous voyons dans les Écritures, et tout particulièrement dans le livre des Actes, c'est que c'était un choix personnel de la part des gens de placer leur foi en Jésus-Christ. Et ce que nous voyons, hein, c'est que ces personnes, et on va développer ça un peu plus tard, ces personnes automatiquement faisaient partie d'une église, d'un groupe de croyants. Devenir membre d'une église nécessite ou implique déjà l'abandon du confort de l'individualisme. C'est-à-dire que je vais arrêter de penser à moi-même et de commencer à penser aux autres. C'est s'autoriser volontairement d'être lié à un groupe de personnes, des personnes qui sont différentes, des personnes avec parfois des idées bien différentes que nous pouvons avoir, des personnalités différentes, parfois un humour différent aussi. Nous sommes tous différents et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est en fait une force même. Mais voilà, quand on s'engage pour le Seigneur, on va s'engager aussi pour des frères, des sœurs en Christ, où le point commun que nous avons, c'est ce qui nous unit, la foi en Christ, le désir de vouloir vivre pour lui et par lui une vie qui l'honore. Et donc cette adhésion, elle découle d'un choix, un choix, hein, de se mettre au service du Seigneur, de se mettre au service des autres. Et oui, c'est un choix qui mérite réflexion aussi. C'est un choix qui mérite de multiples prières, beaucoup de temps dans l'intercession, dans la recherche de la volonté de Dieu, parce que on ne va pas juste aller ouvrir la porte de n'importe quelle église et de dire ça y est, je vais devenir membre, sans même la connaître. Et c'est pour ça, moi je préfère mille fois plus les chrétiens qui prennent le temps d'écouter l'enseignement, d'observer ceux qui enseignent, d'observer les membres de l'Église, qui prennent ce temps-là sérieusement et dans la prière, avant même de joindre une Église et de ne pas se précipiter ainsi dans une Église. Mais c'est un choix personnel que Dieu nous demande de prendre. Et je peux comprendre que beaucoup aient de la réticence, hein. Il y a beaucoup de confusion sur même l'idée, le principe de devenir membre officiellement d'une église. Hein, nous vivons dans un pays où, eh bien, la structure administrative a un poids considérable dans tous les aspects de la vie, et même dans la vie, des différents groupes religieux. Hein, en France, nous sommes tenu de nous organiser en association, et plus précisément en association culturelle. Et croyez-moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a rien d'anti-scripturaire à ce que l'État nous demande de faire, de nous organiser ainsi. En fait, c'est même une bonne chose, parce que ces lois, elles sont là aussi pour protéger chacun d'entre vous. Mais voilà, parfois, ce poids administratif, hein, ces règles imposées, beaucoup de chrétiens disent: oh non, il ne faut pas écouter le gouvernement, hein, ils n'ont rien à dire sur l'Église. Hein, on croit en la séparation de l'Église et de l'État. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Et l'État aussi. Et c'est pour ça que depuis 1905, il y a cette loi de séparation de l'Église et de l'État et ces associations cultuelles qui ont été créées pour que, eh bien, des groupes comme les nôtres, nous puissions nous organiser, avoir un lieu que nous pouvons louer, avoir une identité même, on va dire, légale, juridique, de pouvoir ouvrir les comptes bancaires, ce genre de choses-là. Mais ça n'a rien d'antibiblique, tout cela. Le fait d'avoir des assemblées générales et de parler de l'Église, de la situation financière, ou même de proposer des projets pour l'année, les choses comme ça, il n'y a rien dans la Bible qui dise que ça, ce soit mauvais. C'est au contraire une bonne chose. Et la réticence de certains vient peut-être donc d'une confusion où, voilà, on voit les clubs sportifs, ah, c'est des associations. On voit le club de bridge, ce que vous voulez, ce sont des associations. Et l'Église doit être différente de cela. Elle est. Et nous l'avons vu déjà depuis un moment que l'Église est quelque chose d'unique. D'autres ne savent pas pourquoi le fait d'adhérer à une Église, de devenir membre d'une Église locale est quelque chose de nécessaire s'ils sont déjà d'une manière ou d'une autre engagés dans l'Église. Certains chrétiens vont se dire: ah ben, moi je donne déjà de dîmes et offrandes, c'est déjà ça. Certains vont dire: ah, mais on vient au culte, on vient aux réunions de prière, et on prie les uns pour les autres, et on s'exhorte et on s'encourage les uns les autres. Et c'est une bonne chose, je ne vais jamais vous arrêter de faire cela. Mais il y a quelque chose de plus important encore ici. Tout ceci, toute cette réticence, confusion, ou même les requis de la loi, ça ne devrait jamais être un obstacle pour le chrétien dans son obéissance à Dieu, à sa parole. Déjà, pour tout ce qui est administratif, etc., je peux citer deux passages. Romains chapitre 13, déjà, verset 1er nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. En tant que chrétien, nous sommes appelés à être soumis aux autorités et à respecter les lois. Pierre réitère ce même principe dans sa première épître au chapitre 2, hein, les versets 13 à 15, vous pouvez les lire. Soyez soumis à cause du Seigneur. Ce qui va nous pousser à être soumis aux autorités, à être obéissants des lois et des règles, ce n'est pas parce que ah, nous admirons tellement tel gouvernement ou tel président. Oh non, 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 c'est pas ça. À cause du Seigneur. Et il nous dit donc, à cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, au gouverneur, etc. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Nous avons un témoignage, nous avons un exemple à donner dans cette communauté, dans cette ville. Et c'est pour ça qu'on veut s'efforcer, hein, de faire les choses dans les règles. Et nous pouvons louer le Seigneur, le remercier également de ce que nous vivions dans un pays où nous avons de grandes libertés, dont les lois, eh bien, concernant ces associations cultuelles ont été votées pour protéger les personnes. Nous sommes amenés à prier pour ces autorités. Hein, c'est ce que Paul rappelle à Timothée dans sa première épître au chapitre 2, les versets 1 à 3. Avant toute chose, nous sommes exhortés à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, y compris les autorités, hein, pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Alors déjà, nous avons la cause, la raison pour laquelle nous devons être ainsi, c'est à cause du Seigneur, pour l'honorer, pour le glorifier, mais aussi, si nous vous désirons avoir une vie paisible où nous pouvons pratiquer notre foi, être une lumière pour les nations et pour les personnes autour de nous, eh bien, nous devons faire les choses dans les règles. Je crois que d'un point de vue même, on va dire pratique, chaque personne devrait vouloir même participer aux décisions concernant l'Église. Devrait même voir, hein, par rapport aux finances de l'Église, de même voir comment l'argent est employé. Et d'avoir une participation décisive dans ces choses-là. Donc en soi, le principe d'adhésion à une Église n'est pas quelque chose qui est contraire aux Écritures, même en dehors des Écritures, mais on voit ces principes dans les Écritures. Donc c'est ce que nous allons voir deuxièmement, eh bien c'est le fondement biblique de ce concept d'adhésion à une Église locale. Le Nouveau Testament donne beaucoup d'instructions pour l'Église. Beaucoup d'instructions pour la vie chrétienne. Mais il y a aussi des principes que nous voyons dans les Écritures où nous les trouvons, on va dire, enseignés de manière implicite. C'est-à-dire que ce n'est pas textuellement écrit quelque part que vous, chrétiens, vous devez joindre une Église locale et être membre de cette Église locale. J'ai déjà entendu cet argument-là de personnes qui disaient, moi, je ne veux pas être membre parce qu'il n'y a rien dans les Écritures qui dise qu'on doit être membre d'une église locale. On peut aller loin dans ce genre de raisonnement-là. Je peux dire, les Écritures ne disent rien sur, il est interdit de regarder la pornographie. N'y a rien dans les Écritures qui disent, vous ne devez pas vous droguer. Mais on a des principes qui sont clairs et évidents sur la sainteté de la vie chrétienne qui nous amènent à comprendre que, non, ça, on ne doit pas. Et ce sont des enseignements implicites. Si on prend le temps d'étudier sérieusement les Écritures, on va voir qu'il y a davantage de poids dans l'idée de devenir membre d'une église locale que de se dire c'est pas écrit donc c'est pas la peine. Bien au contraire. Déjà, on a vu que l'église locale est quelque chose. C'est un organisme vivant, mais c'est aussi un organisme organisé, n'est-ce pas? Il y a une structure que le Seigneur a donnée. Et dans ce passage d'un Corinthien, il nous montre aussi qu'à l'intérieur de cette structure, chaque membre a un rôle, même s'il peut paraître si minime soit-il aux yeux de certains. Paul, il nous dit que ça, c'est ce que nous devrions remarquer le plus. Mais que chaque membre est appelé à être attaché, lié à ce corps et faire partie de ce corps. Alors certes, oui, on a un corps en tant qu'être humain et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur son fonctionnement ou même sur la raison de certaines choses. Hein, ça fait des siècles et des siècles que les médecins se posent la question sur quel est le rôle de l'appendice. On ne sait toujours pas. Alors, notre sœur, elle a eu l'appendicite il n'y a pas si longtemps que cela. Mais voilà. L'Église est quelque chose d'organisé. Il y a une structure. Et il y a dans ces églises du Nouveau Testament, eh bien, des personnes qui étaient membres de cette Église, qui faisaient part entière, hein, de ce groupe de croyants, d'individus qui étaient réunis pour louer le Seigneur, pour servir le Seigneur et servir les uns les autres. Et donc même les épîtres, hein, du Nouveau Testament sont elles aussi adressées à des églises distinctes. Donc oui, il y a cette Église universelle, mais l'enseignement que nous voyons, hein, quand Paul écrit à Corinthe, ben, c'était pour l'Église de Corinthe. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas en bénéficier. On comprend les choses que Paul enseigne dans cet épître aux Corinthiens, mais Paul, eh bien, il y avait quelque chose de très spécifique avec cette Église qu'il devait corriger. Et il nous donne beaucoup d'enseignements. Dans le livre des Actes, une grande partie de la terminologie qui est associée même à l'église locale, eh bien, correspond à cette idée d'un groupe où il y a des membres qui font partie d'un corps. Hein, quand on parle de congrégation, c'est un regroupement. L'église, c'est une assemblée. Hein, c'était des disciples qui étaient à Jérusalem. Hein, c'était, quand Paul adressait ses enseignements à l'église, c'était à l'église tout entière ou aux anciens de l'église, etc. Et tout dans la terminologie du Nouveau Testament concernant l'église, eh bien, tend vers cette idée d'appartenir à un groupe spécifique d'une église locale. Dans le livre des Actes, lorsque des individus se repentaient et croyaient au Seigneur Jésus-Christ, ils étaient baptisés le jour même et ils étaient ajoutés à l'église locale de Jérusalem, hein, dans Actes chapitre 2. Le verset 41 nous dit, hein, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Déjà, il y a quelqu'un qui s'est amusé à essayer de compter. Pour savoir, maintenant, bah, tiens, l'église, bah, maintenant, on est à presque plus de 3000. Il va falloir organiser les choses. Et puis, on voit ça un peu plus loin dans Actes chapitre 6, par exemple. Mais dans l'église du 1er siècle, l'idée de venir à Christ était associée automatiquement à l'idée d'être baptisé et d'être ajouté à une église locale. Hein, l'idée de faire cette expérience du salut sans appartenir à une église locale, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas cette idée que, tiens, il y a un individu, hein, il y a une église là-bas, mais il est sauvé, il est chrétien, mais je ne vais pas m'associer avec eux. Je ne vais pas faire partie de ce groupe-là. On ne voit pas cela. Bien au contraire. Toujours dans Actes 2, hein, verset 47, chaque jour, hein, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Hein, plus loin, dans le chapitre 5, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et chacun était ainsi ajouté à une église locale. Dans sa première épître à Timothée, Paul va même jusqu'à donner des instructions, hein, sur l'organisation dans l'église, et notamment sur le rôle et la place des veuves au sein de l'assemblée dont Timothée avait la charge. Dans sa première épître, au chapitre 5, les versets 9 et 10, il dit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Alors dans ce chapitre, oui, il est question aussi, eh bien, d'apporter une aide, hein, aux veuves, celles qui sont démunies, etc., et de pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement ou apporter de la nourriture, etc. Mais là, ici, on est quelque part dans une autre catégorie, parce qu'il donne des instructions très spécifiques sur ces veuves. Déjà, la question, c'est quoi ce rôle, hein, beaucoup ont écrit, hein, et émis des hypothèses sur ce que ça pouvait signifier, mais quand on regarde ici au descriptif des choses requises, on voit qu'une certaine ressemblance, on va dire, avec les requis pour les diacres, les requis pour les pasteurs. Et je ne suis pas en train de dire que voilà, ça montre que les femmes, les veuves pouvaient être dans le ministère pastoral. Non, mais on a ici l'idée qu'il y a des prérequis pour que ces femmes puissent avoir un rôle et un certain ministère dans l'Église. Et donc cette liste à laquelle Paul fait référence ici, eh bien, donne davantage l'idée, hein, que plutôt que ce soit une liste pour des veuves éligibles à une sorte de pension alimentaire, il s'agit plutôt d'une liste de ceux qui étaient éligibles à exercer un ministère au sein de l'Église. Et on sait que Paul va aussi donner des instructions, hein, sur les femmes, de pouvoir aider les autres femmes à grandir dans la foi et d'être un exemple pour elles. Et donc au verset 9 et 10, donc Paul ici donne des conditions requises pour figurer sur cette liste. Alors pourquoi je parle de cela ? Ben, ça montrait déjà que, bien, pour faire partie de cette église, bon, on avait déjà des prérequis. Être né de nouveau, être baptisé, et ensuite joindre cette église. Mais ensuite, pour servir même au sein de cette église, il y avait une liste de ceux qui étaient éligibles. Donc, qui dit liste dit organisation. Qui dit organisation montre qu'il y a cette idée également de gens qui s'associent, qui adhèrent, qui deviennent membres de ce groupe pour aider et pour servir. Cette métaphore du corps que nous voyons justement dans 1 Corinthiens chapitre 12, hein, les versets 12 à 27 plus précisément, eh bien, nous montre encore plus cette idée d'appartenance. L'appartenance à l'Église, elle est impliquée dans cette métaphore. C'est évident ici que le principe que Paul énonce dans cette épître s'applique à l'Église locale. Il adresse cette épître aux chrétiens de Corinthe. Je vous le rappelle, Hein, les chrétiens de Corinthe, est-ce qu'ils étaient parfaits? Non, loin de là. Est-ce que c'était une église sans problème? Loin de là. C'était la raison même de l'épître de Paul à cette église. Mais c'était une église composée de croyants, personnes nées de nouveau, qui ont été baptisées et qui ont fait partie de ce groupe, si imparfait soit-il. Mais ce qui est étonnant, hein, quand je vois aussi les paroles que Paul adresse à cette église, notamment au chapitre 1er, verset 7, il parle de ces chrétiens de Corinthe en disant qu'il ne leur manquait aucun don. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre ensemble et servir ensemble le Seigneur. Mais voilà, cette idée, cette image que Paul donne ici, c'est celui d'un corps. Si je détache mon bras de mon corps, est-ce que ce bras, je peux dire, il fait partie de mon corps? Non. Il ne peut faire partie que de ce corps s'il est attaché, s'il est lié à ce corps. Et ça, c'est l'idée que nous voyons dans cette métaphore-là, c'est que les chrétiens sont appelés à s'associer et à former un seul corps, dont chacun a sa part en tant que membre dans ce corps. Il y a une unité, donc, une relation organique impliquée dans cette image du corps. Il y a en effet quelque chose d'anormal dans le fait qu'un chrétien ne veuille pas se joindre à une église et faire partie d'un corps et donc de choisir hein, d'en être un membre fonctionnel. Notons également qu'il n'y a pas sur ce corps d'éléments inactifs ou de parties qui soient nomades. Hein, c'est pas la main, tiens, je vais aller voir ailleurs par là-bas quel autre corps il y a et que je puisse me joindre. Il n'y a pas cette idée-là. Il y a une idée profonde d'unité, de lien en Christ. Un autre argument aussi par rapport au fait que voilà, l'Église, elle est composée hein, de personnes qui se joignent à un groupe, qui en deviennent membres, c'est que le ministère même du pasteur devient quelque part incohérent si il n'y a pas d'appartenance à une église locale. Pourquoi? Le pasteur, il est appelé à être berger, berger d'un troupeau. N'est-ce pas? Moi, en tant que pasteur, ou notre frère Philippe également, nous n'avons pas une responsabilité envers eh bien, les chrétiens d'une autre assemblée. Mais dans Actes chapitre 20, verset 28, il nous est dit que eh bien, nous devons prendre garde à nous-mêmes, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établi évêques pour pas être l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. C'est un groupe spécifique. Oui, Paul, eh bien, il pouvait adresser ses épîtres à Corinthe, à Colosse, à Éphèse, etc. Pourquoi? Parce qu'il avait une part importante dans la naissance de ces églises et dans la formation de ces églises. Mais moi, je n'ai rien à dire hein, sur ce qui se passe dans l'église à Rouen ou à Thionville ou à Toulouse ou peu importe. Nous ne sommes pas appelés à veiller sur ces troupeaux-là. Mais le modèle constant que l'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que les responsables spirituels ont une intendance d'un corps local de croyants, de paître le peuple de Dieu là où il se trouve, de travailler diligemment parmi eux, hein, et de veiller donc sur leurs âmes. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne une instruction très précise, hein, pour tous les croyants. Obéissez à vos conducteurs. Pas parce que nous le méritons. Non, obéissez à vos conducteurs, ça aussi sous-entend que tant que nous sommes en train de prêcher finalement la parole de Dieu et d'être un exemple pour les autres, mais obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. Ça, c'est ce que je veux souligner. Voilà la responsabilité du pasteur. Il doit veiller sur les âmes du troupeau et on va devoir en rendre compte. Et quelque part, c'est aussi important pour nous en tant que pasteurs de connaître le troupeau dont on a la charge. Quand nous avons des personnes qui vont, par exemple, vouloir devenir membres de cette église locale, alors nous avons établi une constitution, des statuts pour l'association. Nous avons établi aussi une confession de foi pour l'Église. Mais il va de soi que c'est pas n'importe qui va pouvoir faire partie de cette association, qui va pouvoir devenir membre. Avant toute chose, il doit y avoir un témoignage de foi en Jésus-Christ qui soit clair, qui soit précis, hein, que la personne ait montré cette repentance dans sa vie et placé sa foi en Jésus-Christ. Le fait d'avoir été baptisé par immersion, et ça, voilà, il y a ces requis-là. Et quand donc ces personnes se joignent à une église, deviennent membres de l'église, bien le pasteur, il connaît déjà un peu mieux les personnes. Il connaît aussi un peu mieux les besoins des uns et des autres. Les versets hein, que je viens de citer dans Hébreux 13 ou même hein, dans la première épître de Pierre au chapitre 5, les versets 1 à 3 où il donne des exhortations aux anciens, hein, il dit au verset 2 « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Sachez une chose, je ne suis pas supérieur dans la foi, dans la sainteté, à qui que ce soit. Nous sommes tous des pécheurs repentants, sauvés par la seule grâce de Dieu et par l'œuvre de Jésus-Christ. Et on s'efforce de suivre ce que Dieu nous demande de faire déjà en tant que croyants, mais aussi avec la responsabilité qui nous est confiée. Et ces responsabilités, eh bien, nous amène à connaître, à savoir qui est dans ce troupeau. En notez bien que, en tant que pasteur, nous ne sommes pas forcément responsables du bien-être spirituel de chaque individu qui visite l'Église. Nous sommes responsables de ceux qui sont là, qui viennent fidèlement, de ceux qui se joignent à nous. Et c'est ce que nous voulons être les uns pour les autres, c'est d'être une source d'encouragement, d'exhortation, de nous amener plus proche du Seigneur. Un autre argument en faveur de cette idée d'adhésion à l'Église locale, c'est que dans l'Église, eh bien, on a un enseignement scripturaire sur ce qu'est la discipline. Malheureusement, voilà, il arrive dans les églises qu'on doit exercer la discipline envers un frère, une sœur dans la foi qui s'est égarée du Seigneur. On le voit dans les Écritures, et il y a un enseignement précis là-dessus. Mais notez bien quelque chose, c'est que déjà, bon, dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus, il donne des principes par rapport au fait que bon, si un frère t'a offensé, a mal agi envers toi, va, déjà, reprends-le. Hein, reprendre, c'est pas le secouer et dire « Ah, t'as mal agi !» Non, c'est l'idée, écoute, tu as péché, et tu ferais mieux de te repentir. De demander pardon à Dieu. Et le Seigneur, il donne des instructions par rapport à celui qui refuse de l'écouter, qu'ensuite il faut revenir avec deux, trois membres de l'assemblée. Et voilà, s'il n'écoute toujours pas, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il soit exclu de cette assemblée. On voit également dans les écrits de Paul à Timothée au chapitre 5, verset 20, il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Bon, » la responsabilité spirituelle aussi, c'est que quand on voit le péché dans la vie d'un frère, d'une sœur, on va vouloir les aider à vaincre ce péché. Et si c'est un péché qui est même fait au milieu d'une assemblée, encore plus, hein, nous devrions vouloir aider. Mais il y a ici un principe. C'est que on ne peut pas exclure d'une assemblée ce qui ne fait pas partie d'une assemblée. N'est-ce pas? L'assemblée a des décisions à prendre en cas de discipline, et ce n'est pas juste moi qui vais dire, alors ce frère là-bas, il a péché, il est exclu. Et personne n'a rien à dire. Non, ce n'est pas le fonctionnement d'une église, ce n'est pas ce que nous voyons dans les Écritures. Le fait que justement, dans cette même épître de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, Paul, justement, il parle de cela. du fait que c'était à l'Église de prendre ses responsabilités concernant le péché qui régnait dans la vie de l'un de ses membres, il devait agir. Paul les a repris parce qu'il n'avait rien fait par rapport à ce péché qui existait dans l'Église. Et donc, au chapitre 5, les versets 12 à 13, il dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ?» Je n'ai pas à juger ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Je n'ai même pas à juger ceux qui ne font pas partie de l'Église locale. Mais il dit « N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Il s'adresse à qui, encore une fois? Il n'est pas en train de s'adresser à vous, les pasteurs à Corinthe. Il adresse son épître à toute l'Église, aux saints qui sont à Corinthe. On verra aussi dans justement les responsabilités du chrétien, du membre d'Église, qu'on a une responsabilité spirituelle de veiller sur ce que eh bien, les pasteurs sont en train d'enseigner, la direction que prend une Église. On a tous cette responsabilité-là. Mais le verset 13, il dit « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. » Mais il dit « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Là, encore une fois, ce même principe de retirer, d'enlever, d'exclure celui eh bien, qui est dans le péché, qui ne veut pas accepter de se repentir, qui est clairement désobéissant au Seigneur, l'Église doit agir. Alors maintenant, comment exclure ceux qui ne font pas partie d'un groupe? Vous voyez, c'est ces enseignements, je veux dire, implicites que l'on voit dans le Nouveau Testament, quand on prend le temps de réfléchir à ce que Paul nous dit, c'est que voilà, l'Église locale, c'est un groupe de croyants qui se sont joints ensemble avec des objectifs précis, des objectifs concrets, avec une direction qui est donnée. Et quand il y en a un d'entre eux qui ne veut plus aller dans cette même direction-là, quand il y en a un d'entre eux qui vit dans le péché et qui ne veut pas se repentir, l'Église entière a cette responsabilité d'agir. Et parfois, cette action peut amener justement à exclure de ce membre sur ce membre de ce corps. Considérons également, pour finir, l'exemple de Christ lui-même. Se joindre à une église, en faire partie intégrante, nécessite, comme je l'ai dit, de l'abnégation, nécessite aussi un sacrifice, que seul l'amour que Dieu nous enseigne, cet amour agapé que nous voyons dans les Écritures, nous permet d'accomplir. Si nous n'avons pas cet amour-là, est-ce qu'on va vouloir se sacrifier pour les autres? Est-ce qu'on va vouloir servir les autres? Non. Se donner et se soumettre aux autres peut même offusquer ceux qui n'ont toujours pas compris ce qu'est le christianisme biblique. Parce que le christianisme biblique est clair. Commençons même sans aller dans le Nouveau Testament. On peut aller dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, n'est-ce pas? C'est le premier et le plus grand des commandements, ça nous est rappelé dans le Nouveau Testament, mais c'est l'enseignement donné au peuple d'Israël. Dieu en premier. Qu'est-ce qui vient ensuite? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'idée même de la foi biblique, du christianisme, c'est que on aime Dieu, et par amour pour lui, on veut le servir. Par amour pour lui aussi, il nous demande d'aimer les autres, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils disent, leur manière, leur personnalité, peu importe, aimer votre prochain. Et c'est cet amour qui amène à servir, c'est cet amour qui amène même à se sacrifier, à laisser de côté notre individualisme et de vouloir aider l'autre qui est à côté de nous. Mais lorsque on contemple justement l'exemple suprême du Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a pas hésité à faire quoi? À se joindre à l'humanité. Il y a eu de l'abnégation. Et il y a eu des sacrifices de sa part pour devenir un être humain. Il n'a pas hésité à se faire homme, à devenir homme et à se sacrifier pour cette humanité. Et lorsque nous comprenons que personne ici présent ne mérite l'amour et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, lorsque nous vivons pleinement notre foi, selon les Écritures, sous la conduite de l'Esprit-Saint, eh bien le fait de quitter, le fait d'abandonner notre confort, notre individualisme, et de se laisser lier à un groupe de personnes tellement différentes de nous-mêmes. Mais un groupe de personnes où il y a ce point commun, et un point commun qui n'est pas des moindres, c'est l'amour pour le Seigneur, le désir d'accomplir sa volonté. En faisant cela, l'exemple de Christ qui, par exemple, n'a pas hésité à s'humilier, à s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. Il nous a enseigné cela. Pas à laver les pieds des uns des autres, mais même à accepter les tâches les plus humiliantes par amour pour les autres. En devenant serviteurs et servantes de Christ, et par extension les uns des autres, c'est quelque chose qui est évident en lisant le Nouveau Testament. Donc l'Église, c'est ce moyen par lequel bien Dieu nous aide à mettre en pratique l'enseignement qu'il nous donne, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, le service, la grâce, le pardon, l'humilité. Comment mettre ces choses en pratique si on ne veut pas se réunir en tant que croyant? Comment mettre ces choses en pratique si on ne veut pas faire partie d'un groupe et d'avoir une part concrète dans ce groupe? Alors pour conclure cette première partie sur le sujet, parce que nous aurons encore d'autres choses à voir, rappelons-nous que le fait d'être membre d'une église n'apparaît pas comme une option facultative pour le chrétien. Clairement, dans les Écritures, les personnes se repentaient, étaient baptisées, étaient ajoutées à l'Église. C'est un don précieux. L'Église est un don précieux que Christ a donné à ses brebis. Comment ou même pourquoi rejeter ce que le Seigneur a donné? Ensuite, permettez-moi juste de donner un peu cette illustration. On a vu que l'Église, c'est le corps de Christ. Mais on a vu aussi précédemment que l'Église était aussi appelée la fiancée du Seigneur, n'est-ce pas? Et on a eu là aussi une image magnifique de ce qu'est l'Église. Parce qu'un jour glorieux, eh bien, l'Église sera appelée auprès du Seigneur et auront lieu les noces de l'agneau. Et c'est une image magnifique. Pourquoi? Parce que ça montre l'intérêt et l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Mais ça montre aussi l'amour que nous devons avoir envers le Seigneur et le respect que nous devons avoir de sa volonté pour l'Église. Je ne peux pas m'empêcher, en prenant cette image de l'Église, la fiancée de Christ, je ne peux pas m'empêcher de mettre cela en relation avec ce que nous venons de voir. Parce que oui, certains chrétiens, et encore une fois, je veux juste que ce soit clair, je ne suis en train de viser personne, d'accord? Ne voyez pas cela comme cela. Je veux juste partager cela avec vous ce matin, mais certains chrétiens ont une vision de l'Église en rapport avec leur vie chrétienne qui s'apparente à celle du monde concernant le couple. Cette idée de « on va essayer, voir si ça marche ». Cette idée de ne pas prendre d'engagement à une sorte de concubinage spirituel, voulant les bénéfices de la relation sans engagement formel, sans volonté de donner quelque chose aussi en retour. Et je ne suis pas en train de parler de finances ou d'argent, je parle de notre service spirituel dans l'Église. Ou cela peut aussi s'apparenter encore à une... Et là, je sais, c'est une image forte, hein, mais c'est parce que ça existe, et je ne vise personne, encore une fois, mais juste par précaution et par prévenance. Mais certains voient l'Église et agissent envers l'Église comme des parasites le font. C'est-à-dire, il y a une sorte d'attachement, mais c'est que le moment pour prendre, pour recevoir, pour détourner ce qu'il y a dans ce corps. Au lieu d'être, si on veut prendre une autre analogie hein, du monde biologique, au lieu d'être comme un symbiote. Hein, le symbiotisme, c'est quoi? C'est quand on a deux entités organiques qui se lient et les deux parties en bénéficient. Il y a un échange concret. C'est du donnant-donnant. Ça, c'est quelque part l'image que nous voyons dans les Écritures par rapport à l'Église. Et nous devons veiller, chacun d'entre nous, eh bien, de nous conformer à cette image, de nous conformer à la volonté de Dieu. Donc, Dieu voulant, il nous restera à voir la prochaine fois, eh bien, justement, les responsabilités, mais aussi les privilèges des membres de l'Église locale, mais aussi les moyens que le Seigneur nous donne d'accomplir l'œuvre au sein de l'Église locale. Mais prenons le temps, hein, au cours de cette semaine, de prier et de nous demander aussi, déjà, quelle est ma relation avec l'Église? Qu'est-ce que je peux encore faire pour faire partie encore plus de cette Église?